Bonjour et bienvenue dans cet avant-dernier épisode du podcast Le Grand Oral AEF Info FNEJ pour cette saison. Nous en sommes déjà au 23e entretien avec un dirigeant d'établissement d'enseignement supérieur de gestion. Et pour mener cette interview, j'ai le plaisir d'être accompagné de Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ. Bonjour Jérôme.
Bonjour Sarah.
Jérôme, après nous être baladé cette année à Abu Dhabi, à Londres ou à Montréal, nous faisons halte aujourd'hui en Allemagne, à Hambourg plus précisément, aux côtés de quelqu'un qui a longtemps œuvré au sein d'une business school française, l'ESCP Business School, et qui est maintenant, depuis tout juste un an, président de la KLU, la Kuhn Logistics University à Hambourg. Donc, Andreas Kaplan, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Sarah, bonjour Jérôme.
Andreas, je ne sais pas si vous avez formellement la double nationalité franco-allemande.
Non.
Mais vous avez très certainement la double culture. Vous êtes né à Munich, vous avez fait votre scolarité jusqu'à la licence, puis vous avez étudié à l'ESCP. Vous avez fait votre doctorat entre HEC et l'Université de Cologne, et puis vous avez ensuite intégré l'ENA. Vous parlez parfaitement le français, et vous avez d'ailleurs enseigné plusieurs années le marketing à l'ESCP, où vous avez aussi dirigé les campus de Berlin et de Paris. Il y a un an, vous décidez donc de retourner dans votre pays de naissance pour prendre la tête d'une école beaucoup plus petite, beaucoup plus spécialisée, une école de niche, on pourrait dire. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix de carrière ?
Bon, écoutez, déjà à l'ESCP, j'étais pendant un peu plus de 10 ans dans le comité exécutif. Donc, du coup, j'avais fait, enfin, à mon opinion, à mon avis, j'avais fait un peu le tour. Et j'avais envie de voir autre chose. Donc, j'ai effectivement candidaté, postulé ailleurs. Cette offre de la KLU, ça m'a intéressé parce que le projet est très axé à l'international, c'est-à-dire le plan est, à part de Hambourg, d'ouvrir des campus en dehors de l'Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique. Et comme j'ai eu, une bonne expérience en Europe avec l'ESCP, ça m'a vraiment attiré de voir en dehors de l'Europe. Donc voilà.
Alors, présente-nous un peu plus KLU, qui n'a pas de notoriété en France, mais qui a une caractéristique très particulière. Elle est entièrement l'œuvre d'un mécène, l'homme le plus riche d'Allemagne.
La KLU, c'est une école de commerce ou une université de management où il y a des programmes de management généraliste, du bachelor jusqu'au doctorat, avec la particularité que notre expertise est vraiment axée, où on a une grande expertise dans le supply chain, dans la logistique, parce que le fondateur Klaus-Michael Kühne, il a une grande entreprise de logistique avec 80 000 employés. Il a des parts à Lufthansa, 20% dans la Lufthansa, 30% de Hapag-Lloyd. Et à l'époque, il a fait le constat que dans les boards des entreprises et dans les postes à responsabilité, il y a peu des gens qui ont cette expertise en supply chain. Il y a toujours quelqu'un qui a du marketing, quelqu'un en finance, quelqu'un ressources humaines, mais pas logistique, parce que c'est un peu la main invisible du management. Et il se disait, je vais créer ma propre école pour justement promouvoir la logistique, parce que c'est quand même souvent un peu, à la connotation d'être ennuyant, on pense toujours aux routiers, aux camions, etc. Et lui, il voulait qu'il y ait une école qui met à juste valeur la logistique ou le supply chain.
Mais ce n'est pas pour autant une université d'entreprise. Hein?
Absolument pas. C'est complètement indépendant de Kühne & Nagel, qui est cette entreprise de M. Kühne. En gros, il y a aussi ses concurrents qui prennent de la formation continue chez nous. Enfin, il n'y a aucun lien direct avec Kühne & Nagel, sauf bien évidemment que M. Kühne, il est dans mon board et donc il est présent.
Et alors Hambourg, c'est parce que c'est la ville de M. Kühne ou c'est parce que c'est un centre logistique mondial ?
C'est les deux.
Les deux.
C'est sa ville à lui et c'est aussi un des plus grands ports de l'Europe. Troisième, je pense. Non, je suis sûr. Troisième.
Alors justement, comment KLU se situe dans le paysage des écoles de management allemandes ?
Bon, il faut savoir qu'en Allemagne, il y a peu d'écoles de commerce, enfin au moins en comparaison avec la France. Quand vous faites des études de commerce en Allemagne, c'est plutôt en université publique, pas comme en France où il y a plein d'écoles de commerce, où c'est plutôt la voie normale d'intégrer une école de commerce. En Allemagne, c'est plutôt le contraire, c'est une université publique où vous faites des études. Donc il y a très peu d'écoles de commerce et nous, on en fait partie de ce petit groupe d'écoles de commerce privées avec, ça c'est important parce que ça c'est aussi un peu une différence en Allemagne, avec une activité quand même assez poussée en recherche.
D'accord, donc il n'y a pas le même système de classement qu'on a en France, de concurrence très frontale?
Ben, il y a quand même des classements, mais ils ont beaucoup moins d'impact qu'en France. Si, par exemple, vous voulez intégrer un cabinet de conseil tel que McKinsey, Bain, BCG, peu importe, en France, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités d'intégrer ces cabinets-là si vous avez fait une des trois parisiennes. En Allemagne, c'est pas forcément nécessaire d'avoir fait ça, donc c'est plutôt les notes qui comptent. Donc en gros, votre moyenne à la fin de votre parcours, c'est ça ce qui compte. Et si vous voulez intégrer un cabinet de conseil comme McKinsey, il faut avoir des bonnes notes. C'est-à-dire aussi, quand vous postulez pour candidater en Allemagne, il faut envoyer toutes les relevés des notes, ce qui n'est pas le cas en France. Et donc, c'est un peu un autre concept. D'ailleurs, très drôle, parce que toujours quand il y a des travaux en équipe d'étudiants et vous mettez des Français ensemble avec des Allemands, normalement, à un certain moment, les Allemands vont se plaindre parce qu'ils vont dire que les Français ne travaillent pas assez. Parce que bien évidemment, pour un Français, ce qui compte, c'est à peu près d'avoir la moyenne. Pour un Allemand, il a vraiment besoin d'avoir une bonne note parce que la moyenne à la fin de son parcours compte.
Alors revenons-en un peu plus précisément à KLU. Nous avons cru comprendre que les deux tiers du budget provenaient de la fondation Kuhne. Est-ce à dire que vous avez des marges de manœuvre ou faibles ou importantes par rapport à ce quasi-financement monolithique?
Bah, je pense que c'est quand même une chance qu'on a et c'est assez exceptionnel. Je pense, enfin, en France, il y a peu d'écoles qui sont encore subventionnées. De toute façon, pas cette importance-là. Donc, du coup, on a quand même beaucoup de marge de manœuvre. Je peux vous donner un peu des ratios. On a un professeur pour à peu près 10-12 étudiants,
ce qui est pas mal.
Et on a à peu près un administratif, staff administratif pour 4 étudiants. Donc, on peut se permettre des services carrières, etc., quand même très poussés, enfin, ils ont quand même gâté les étudiants chez nous.
Alors du coup, en termes stratégiques, parce que vous avez des ratios qui font rêver tous les dirigeants d'écoles françaises, aucune, y compris
aussi les écoles allemandes, d'ailleurs.
Aucune, y compris les plus prestigieuses, n'approche même pas d'un peu ce type de ratio. Alors ça veut dire quoi en termes de stratégie de développement? Parce que la stratégie de développement, le risque, c'est bien entendu d'affaiblir ces ratios.
Ben, ça dépend de la subvention de la fondation Kuhne. écoutez, la stratégie, c'est effectivement... Enfin, on n'est pas dans la croissance pure et dure parce qu'on n'en a pas besoin des frais de scolarité. On ne dépend pas vraiment des frais de scolarité, même s'il y a des frais de scolarité. Donc, comme chez les autres écoles, donc c'est à peu près les mêmes frais de scolarité.
Un chiffre pour qu'on ait une idée?
15 000 par an, à peu près, avec plein de bourses, bien évidemment. Mais, enfin, de toute façon, on ne dépend pas des frais de scolarité. Donc, c'est plutôt l'impact qui nous intéresse. Et c'est la même chose maintenant avec ce plan d'ouvrir des campus un peu partout au monde. Et donc, on va commencer avec le Vietnam. Et ce n'est pas forcément de sourcer d'étudiants qui viennent après à Hambourg. C'est vraiment pour contribuer à enseigner cette expertise là, où il y a un vrai besoin, parce que pas tout le monde peut venir à Hambourg pour faire ses études. Donc, le plan est de nous en placer dans ces endroits-là, par altruisme.
Alors, combien d'étudiants déjà dans votre établissement?
À peu près 400.
400. Et en termes de pérennité du financement, est-ce que cette fondation sera derrière, soutiendra l'établissement jusqu'à la fin des temps ou il y a une limite dans le temps ?
Il n'y a pas de limite dans le temps. Enfin, même le M. Kuhne, à un certain moment, il a dit que c'est un projet éternel. Donc en gros, aussi il faut comprendre que M. Kuhne, il a 87 ans, il n'a pas d'héritier, enfin il n'y a pas d'enfant ou de... Voilà, il n'y a pas d'héritier. Du coup, toute sa fortune va aller dans cette fondation. Et donc, il n'y aura vraiment pas... Normalement, avec un tel budget, il pourrait probablement financer une centaine de KLU.
On est d'accord que vous êtes là dans un cadre totalement exceptionnel. On ne peut pas se dire que c'est un modèle reproductible ailleurs, si ?
Non, sauf si vous trouvez quelqu'un qui a tellement autant de fonds. Non, ce n'est pas...
Ce n'est pas ton exemple.
Non, bah, je sais qu'on a de la chance.
Alors, Andreas Kaplan, après avoir quitté le SCP en début 2024, vous avez publié un livre plutôt destiné aux initiés, que vous avez intitulé « Les business schools après le Covid-19, un plan de survie, a blueprint for survival », dans lequel vous partagez votre expérience, vous faites un peu un bilan de tout ce que vous avez appris pendant votre carrière, notamment à l'ESCP. Vous partagez vos observations sur ce monde-là. J'ai envie de vous demander pourquoi vous avez donné un titre aussi alarmiste à cet ouvrage. Les business schools sont-elles menacées de disparition ?
Je ne dirais pas de disparition, mais il faut quand même qu'elle change. Ça, je pense honnêtement. J'ai écrit ce livre pendant le Covid parce que le Covid a quand même fait quelque chose, poussé la transformation numérique de l'enseignement de management. Il y a de plus en plus d'acteurs nouveaux qui arrivent sur le marché, qui viennent du privé, mais même pas de l'enseignement supérieur, mais des big tech, des ed tech, des start-up. Et là, je ne veux pas dire que c'est la concurrence déjà à l'heure actuelle, mais je vais vous donner deux exemples qui montrent un peu qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et qu'il y a quelque chose qui est derrière tout ce mouvement. Premier exemple, c'est un start-up espagnol créé en 2017, The Power Business School, qui eux-mêmes disent qu'ils veulent révolutionner le marché du MBA. Bon. Ils proposent un MBA en un an à peu près en ligne, asynchrone, pour 1 000 euros. Ils ont maintenant à peu près 20 000 participants par an. Et enfin, moi-même, j'ai participé à ce programme parce que je voulais voir ce que ça donne. Ce n'est pas parfait. C'est certainement à améliorer, mais ce n'est pas nul non plus. Enfin, on peut apprendre quelque chose si on met l'effort. Donc, du coup, et il y a même autre chose par rapport à ça, il y a Carrington Crisp, un cabinet de conseil spécialisé en enseignement supérieur, qui ont fait une étude avec des participants potentiels à des MBA. Ils ont demandé, mais est-ce que des acteurs comme The Power Business School, ça sera une alternative à un MBA traditionnel ? Et 30% ont dit oui. Bon, c'est des intentions, mais quand même 30%. Deuxième exemple, Google a lancé ses certificats carrière en début du Covid, où vous pouvez apprendre à devenir un manager de projet et un data scientist et autres. $250 pour 6 mois, 3 mois de cours en ligne. Voilà, ça c'est pas particulier. La particularité est que Google, quand vous promet de vous considérer pour vous inviter à un entretien d'embauche, et si vous réussissez d'avoir ce certificat, au même titre qu'un étudiant qui a terminé son bachelor de 4 ans.
Donc, c'est-à-dire que pour Google, c'est l'équivalent, ces certificats maison sont l'équivalent d'un diplôme d'une business school, c'est ça ?
Voilà, au moins vous allez être invité pour un entretien d'embauche, et pas d'ailleurs, pas seulement pour Google, mais Google a 200 entreprises partenaires qui proposent la même chose. Donc après, c'est à vous de prouver, bien évidemment, en entretien, que vous avez les mêmes capacités, les mêmes compétences, etc., que quelqu'un qui a fait des études de 4 ans. Mais bon, ça montre qu'il y a quand même la même opportunité d'avoir ce travail-là. Et à un certain moment, il faut réfléchir pour les écoles de commerce, surtout, toutes les écoles de commerce. Ce qui est aussi un peu pourquoi ça fonctionne, parce qu'à l'entrée, il y a une sélectivité. Donc, on prend les meilleurs étudiants, mais les meilleurs élèves. Donc, ils sont déjà bons quand ils intègrent les écoles. Après, si on pouvait imaginer qu'à un certain moment, les étudiants le plus brillant vont se dire pourquoi perdre 3-4 ans en école de commerce, pourquoi payer autant de frais de scolarité si je peux faire un cours en ligne pour 250 € et j'aurai les mêmes opportunités que si j'avais fait 4 ans d'études.
En même temps, vous êtes bien placé pour savoir, puisque vous dirigez le campus de Berlin pendant la pandémie, que les étudiants n'en pouvaient plus d'être chez eux avec des cours en ligne. On en a tous conclu que l'expérience étudiante était le cœur de ce qu'avaient à offrir les établissements d'enseignement supérieur.
C'est vrai. Après, là, on parle de 3 mois de cours en ligne, donc ça, je pense que ça va être possible. Non, mais encore une fois, je ne dis pas que c'est de la concurrence déjà à l'heure actuelle. Mais rien n'empêche que ces acteurs des startups, ils proposent au même moment, à côté des cours en ligne, des stages, d'autres expériences étudiantes. Par exemple, aussi le Power Business School organise aussi des soirées de networking un peu partout au monde. Et ça, c'est en présentiel. Donc en gros, on peut imaginer que ces acteurs-là vont se professionnaliser et améliorer à un certain moment si les écoles de commerce ne changent pas et ne, à mon avis, ne mettent pas plus le focus sur l'expérience étudiante. Et de vraiment faire en sorte que pendant les 3-4 ans qu'ils sont à l'école, ils apprennent le maximum possible à travers toutes les expériences, donc les stages, les séjours à l'étranger, etc., la vie associative. Je pense là, ça doit devenir une vraie concurrence.
Vous êtes aussi très critique sur le contenu des cours qui sont prodigués en école de commerce. Je ne dis pas en particulier de l'ESCP, évidemment. Mais vous mettez en regard de contenu des cours, de leur nombre, de leur niveau, le coût des études qui n'a cessé d'augmenter ces 10-15 dernières années. Est-ce que vous estimez que ces écoles ne forment pas assez bien et, le cas échéant, pourquoi ?
Je commence à dire que j'adore l'ESCP. Non, c'est vraiment... en plus, je suis ancien, donc j'adore l'ESCP. Je vais vous répondre plutôt qu'il y a un problème systémique avec des cours et la qualité des cours. Un professeur, il est jugé presque uniquement par sa production de recherche. Il va être embauché à cause de sa recherche. Il va être titularisé à cause de sa recherche. Il va être promu à cause de sa recherche. Et ce n'est pas les compétences et capacités pédagogiques qui comptent le plus. Donc, du coup, quand vous dépendez d'un salaire et d'un poste, et c'est que la production de recherche, presque que la production de recherche qui compte, est-ce que vous allez mettre le paquet, l'effort et le plus de temps pour produire de la recherche, ou est-ce que vous allez mettre le plus de temps sur la préparation des cours? Bon, je ne dis pas que... il y a aussi des professeurs qui sont excellents en cours et qui mettent vraiment le temps pour préparer bien les cours. Mais je dis qu'il y a un problème systémique. Même chose, quand vous... et ça, c'est effectivement, vous parlez de l'augmentation des frais de scolarité. De plus en plus, il y a des étudiants qui se plaignent des frais de la hauteur des frais de scolarité, et pas seulement les étudiants qui viennent des milieux défavorisés, qui peuvent peut-être pas se permettre ces prix-là. Non, c'est tout le monde. Et à un certain moment, je compare un peu avec aller dîner dans un resto, un très bon restaurant, étoilé, si vous voulez. Le moment où vous allez dîner dans un tel restaurant, vous savez que ça va être cher. Donc ça, ce n'est pas la question. Mais si le lendemain, quelqu'un vous demande « mais c'était comment ?» et vous répondez « c'était trop cher, c'était très cher, c'était... » il y a un problème parce que probablement la bouffe n'était pas bonne, parce que le service n'était pas bien. Donc, si les étudiants maintenant, de plus en plus, se plaignent du service...
Pas au niveau de leurs attentes, quoi, en gros.
Exactement. Et ce n'est pas seulement les cours, mais ça peut être aussi les stages, etc. Il faut être honnête. Pour avoir un stage, stage. Donc, qu'est-ce qu'une école fait vraiment? Enfin, il y a pas de, ils vont pas vous chercher le stage. C'est à vous, en tant étudiant, qui et ça, c'est un bon apprentissage. Mais je veux dire qu'il y a un problème systémique parce que les étudiants ont l'impression que ils payent trop cher pour le service ou pour le produit qu'ils ont.
Donc, vous pensez que le système d'incitation actuel est à revoir pour le management de la faculté, la façon dont sont appréciés les enseignants?
Oui, ça déjà. Et il faut plutôt se poser la question à chaque fois quand on alloue du budget quelque part, est-ce que ça va vraiment servir à améliorer l'expérience étudiante? Est-ce que ça va optimiser la courbe d'apprentissage des étudiants? Et ça peut être plein de choses. Ça peut être la recherche. Je dis rien contre la recherche. Il faut avoir de la recherche en école de commerce. Mais un article, ça coûte à peu près, il y a des études qui ont été faites, un article dans une revue de Alpha, ça coûte 400 000 euros. Après, ça peut le faire, mais est-ce que ça le fait si cet article donne à l'institution une visibilité accrue dans les médias au-delà que de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire si c'est la pub et la communication, le marketing pour l'école? Là, oui, ça peut le faire si ça a tel article a un frein impact pour une entreprise, qu'elle va vous acheter de la formation continue. Tout ça, oui, mais ce n'est pas le cas actuel. Donc, et à ce moment-là, il faut peut-être réfléchir si ce n'est pas mieux de mettre cet argent, ce budget, sur un suivi, accompagnement accru pendant vos stages, avec des sessions de coaching, etc.
Oui, parce que 400 000 euros, c'est quand même une somme. Enfin, si vous dites ça aux parents, que les articles ne lisent pas leurs enfants...
Il faut préciser peut-être que vous dites 400 000 euros, c'est le coût moyen d'un salaire, du temps passé. Ce n'est pas qu'on achète des articles.
On n'achète pas les articles, mais c'est parce qu'un article scientifique dans ces revues-là de rang alpha, normalement, il y en a deux, trois auteurs. Donc, il faut compter le temps de travail, le salaire en prorata, des budgets de recherche. Donc, ça prend énormément de temps. Ça prend 3 ans à peu près d'écrire un tel article. Donc, ça justifie, enfin, ça explique cette somme.
La situation est la même en Allemagne de ce point de vue-là, ce publish and perish, or perish.
Oui, c'est la même chose. Oui.
Dans les universités publiques aussi, puisque vous disiez que c'était essentiellement des universités publiques que...
Dans l'université publique, oui. En gros, vous n'allez pas obtenir un poste de professeur en université si vous n'avez pas les bonnes publications, oui.
Andreas, on a une dernière question. On arrive déjà à la fin du podcast bientôt. On l'a dit, vous connaissez très bien le système des grandes écoles françaises. Vous êtes même passé par le saint des saints, qui est l'ENA. Vous qui êtes de culture allemande, où le saint Graal a toujours été là-bas plutôt le doctorat, quel regard vous portez sur ce système à la française, qui est quand même souvent très décrié? Quelles en sont pour vous les limites et les atouts?
Je pense, enfin, si on parle des écoles de commerce et la grande école, je trouve ça très bien qu'il y a des classes préparatoires avant où les étudiants apprennent autre chose que le management. Donc ça, c'est très bien parce que l'interdisciplinaire, je suis un grand fan de ça. Et ça, en Allemagne, c'est plutôt, vous faites un bachelor en management, vous continuez avec un master en management. Donc ça, je trouve très bien. Après, la limite, c'est que les étudiants qui ont fait des classes prépa arrivent en école de commerce quand même... Enfin, préparé, oui, mais non préparé, ce que c'est une école de commerce. Donc, du coup, même le concours, quand j'étais directeur académique à l'ESCP, je me suis toujours demandé, mais comment on peut avoir un concours tellement non-management avec la philo, la géo... Enfin, c'est
très
super.
Généraliste, oui.
C'est super, mais en gros, il ne faut pas se demander, demander des questions. Pourquoi les étudiants, quand ils arrivent au cours de marketing, premier cours de marketing à la rentrée, qu'ils se disent, mais qu'est-ce que c'est s'ils ont fait vraiment la philo, etc., qui est quand même un peu plus stimulant intellectuellement qu'un cours de base de marketing. Donc, ça a des avantages et des désavantages.
Et ça crée la frustration, effectivement.
Ça crée la frustration, oui.
Merci Andreas, notre entretien touche donc à sa fin et il est temps de vous demander quel est votre conseil de lecture pour nos auditeurs, maintenant que l'été nous tend les bras.
À part de mon propre livre, bien évidemment, non, mais je rigole. Quand j'ai écrit ce livre, je suis tombé sur un article de Herbert Simon, donc prix Nobel en économie en fin des années 70, je crois, qui a écrit un article en 67 titré « The Business School, a Problem in Organizational Design ». Il parle déjà... à cette époque-là, ce qui est extraordinaire, parce que c'est la période où les écoles de commerce étaient aux US, ont commencé à vraiment produire de la recherche. Donc il dit, une école de commerce, ça ne peut pas être un département de physique, donc pas la recherche fondamentale, etc. Mais ça ne doit pas non plus être une institution sans recherche. Donc en gros, il dit, il faut à chaque fois confronter la théorie avec la pratique. Pour vous expliquer, là, par exemple, on fait pendant les stages, donc ça, c'est effectivement la pratique. Les étudiants apprennent la pratique, mais ce qui manque à cette période-là, c'est confronter la pratique avec la théorie. Est-ce qu'il y a une soutenance de stage? Est-ce qu'il y a un rapport de stage? Est-ce qu'il y a des sessions de coaching avec des professeurs qui expliquent ce que les étudiants vont en entreprise? Bon, donc, et lui, il dit lui-même en 67 qu'il y aura très peu d'écoles qui vont arriver à cette confrontation en permanence entre la théorie et la pratique. Donc, c'est un article qui m'a scotché et je vous le conseille.
Rappelez-nous l'auteur et le nom du papier.
Herbert Simon et The Business School, A Problem in Organizational Design.
C'est une lecture studieuse sur la plage. Merci beaucoup, Andreas Kaplan, président de la KLU, d'être passé au micro du Studio Module. Et merci Jérôme d'être fidèle au poste. On se retrouve dans 15 jours pour notre dernier podcast de l'année 2023-2024, dont je vous rappelle que la série est disponible à la réécoute sur toutes les plateformes de podcast, sur le site d'AEF Info et sur celui de FNAJ Média, en accès libre. Et d'ici là, portez-vous bien.